Ouais, salut Daniel, c'était Jean-Mi là de Limoges. Dis-moi, je t'appelle juste au sujet de Air France là. Donc, enfin, je me marre, je sais pas si c'est hyper drôle, mais alors va y avoir 3 000 licenciements à Air France, donc 3 000, je répète bien 3 000, et les médias et la presse et les hommes politiques ont décidé de nous parler de la chemise du DRH. Et oui, il y a beaucoup plus important que les licenciements. À Air France, il y a la chemise du DRH. Et oui, c'est ça. Ah oui, d'ailleurs, ça fait même réagir le gouvernement, puisque le gouvernement trouve que ceux qui ont enlevé la chemise au DRH sont des voyous. Et oui, le PS, j'allais dire la gauche, mais non, le PS, le PS trouve que ceux qui enlèvent les chemises au DRH sont des voyous, mais que ceux qui licencient méritent d'être reçus à l'Élysée. Voilà. Allez, bon courage, on lâche rien.
Oui, je voudrais savoir si les agriculteurs si prompts à réclamer la solidarité nationale ont prévu des manifestations de solidarité et d'aide aux victimes, aux familles des victimes des intempéries dans le sud-est. Oui, non? Ah non, hein. Ah, je me disais aussi.
Bonjour, j'ai une question. J'aimerais savoir si les frappes aériennes de la France en Syrie ont un rapport avec la baisse du prix du pétrole à la pompe. Merci de me répondre, c'était Angélique.
Salut Daniel, mardi 6 octobre, 7h43, qu'est-ce qu'on entend? Radiodiffusion, Ambroise Croizat qui parle sur la matinale de France Inter. Et Patrick Cohen dit, voici cette interview il y a 70 ans, pour les 70 ans de la sécurité sociale, un interview d'Ambroise Croizat, le ministre communiste qui a instauré la sécurité sociale en France. Ah bah bravo là-bas si j'y suis, vous en avez parlé il y a 4 ans de cela, je crois c'était en 2011. François Ruffin avait fait une émission dessus avec l'historien Michel Etiévant. Et d'ailleurs sur la Marseillaise, j'avais vu que Michel Etiévant ne voulait pas participer à cette mascarade, il disait. Donc voilà quoi, le nom d'Ambroise Croizat qui est de moins en moins gommé. C'était ça que j'avais retenu de votre émission. Pourquoi son nom a été gommé de l'histoire? Peut-être parce qu'il était communiste. Eh ben non, eh ben ça avance petit à petit. Donc je vous dis bravo et puis continuez vos émissions sur Internet. J'ai bien aimé la vidéo sur le Maroc. C'était pas mal, c'était bien. Allez, bonne continuation et puis à très bientôt. Salut.
L'aveugle. Et quand il souleva la jupe, sa main trouva un vide dressé, canular ou marché de dupes. La belle était un Écossais. C'était le poète approximatif. Salut.
Salut Daniel. Écoute, là j'ai vu que le DRH d'Air France, il avait besoin d'une liquette. Alors, bon, j'ai pas de liquette, mais j'ai un t-shirt dont je me sers plus. Donc tu peux lui dire hein, que j'ai un t-shirt. Ciao.
Eh ben, on l'attend. D'accord, on va lui préparer ce t-shirt. On l'attend. On est ici à Roissy. On est au cœur de l'histoire. On est parmi ces violents, ces lyncheurs et ces voyous qui sont autour de nous. Et c'est Youssef Sifi, et c'est Mustapha Litim, et c'est Guillaume Pollard, et c'est Gérard Arnoux, et c'est Karim Taibi, et c'est Erika. Erika, vous connaissez sa voix, vous l'avez vue combien on en est à 2 millions de vues sur Internet, cette jeune femme qui a contribué à faire un peu comprendre ce conflit qu'on a essayé de vous dissimuler. Mais oui, on vous a fait croire que l'histoire, c'était la violence et c'était le débat sur la violence, mais bien entendu qu'il s'agit de tout autre chose, et c'est ce tout autre chose dont nous allons parler. Ici, dans ce numéro 25 de là-bas Hebdo. Voilà, c'est notre sujet du jour. Auparavant, encore quelques messages. Parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 85 08 37 37. 01 85 08 37 37.
Salut à tous, salut les AMG, Daniel et compagnie. Voilà, là je suis un petit peu mort de rire parce que je pensais aux délinquants. Vous savez, le mot délinquant, là, ben, ça fait peur un peu quand on est jeune, on se dit on fait des conneries et puis ça va être grave, on va être condamné, tout ça. Mais on n'est pas encore condamné. On est juste des pré-délinquants. Et puis, là, je viens de m'apercevoir que finalement, la délinquance, c'est pas trop grave. Parce que je viens d'apprendre que le maire du Plessis-Robinson, Philippe Pemzec, vient d'accorder à son tonton, qui lui est un délinquant, vu qu'il a déjà été condamné deux fois, à deux reprises. Son tonton n'est autre que Charles Pasqua. Charles Pasqua, délinquant notoire, eh bien, il vient de se faire attribuer une place au Plessis-Robinson, l'ancienne place de la Résistance, place de la Résistance, hein, s'il vous plaît. Elle va être débaptisée, cette place. Et puis, elle va prendre le nom de la place Charles Pasqua. Les délinquants, en fait, ce sont des gens bien. Ils ont des places à leur nom. Allez, ciao. Ça me fait marrer. C'est Jeff du Gard, Asper dans le Gard. Au revoir.
Bonjour, c'est juste un message pour Daniel Mermet. J'ai entendu que vos bronches et vos poumons avaient l'air mal en point. Alors, si je pouvais vous conseiller de prendre une huile essentielle de Ravintsara, R-A-V-I-N-T-S-A-R-A, quelques gouttes le matin dans une cuillère de miel. Et puis, c'est un peu con à dire, mais tant pis. Et peut-être des tisanes de thym et de thym frais, voilà. Peut-être que ça permettrait de dégager, mais bon, bah, peut-être que voilà. Voilà, au revoir.
Salut, c'est Clément de Paris. Donc, je voulais vous remercier pour l'émission avec Fabrice Nicolino. C'était super intéressant. Et d'ailleurs, ça m'a fait marrer un moment parce qu'en écoutant l'émission, vous avez passé une publicité pour un célèbre vendeur de steak qui m'a bien fait rigoler. En fait, je voulais rappeler en 2009 que Nicolino avait sorti un bouquin vachement intéressant qui s'appelait Bidoche. Et c'est notamment grâce à ce bouquin qui dénonce les effets néfastes de l'industrie de la viande sur la planète et sur les humains que je suis devenu végane. Donc en fait, végane, qu'est-ce que c'est ? Ben, en fait, ma copine et moi, on a carrément arrêté de bouffer de la viande et tout ce qui est produits animaux, donc du lait, des œufs, etc. Il y a plein de raisons à ça, mais je peux vous en citer deux petites. Par exemple, c'est deux tiers des terres agricoles dans le monde qui sont consacrées à l'élevage ou à la production d'aliments pour le bétail. Donc tout ce qui est déforestation au Brésil, etc., c'est ça. Un kilo de steak, hein, il faut 300 mètres carrés pour en produire, alors que de terres cultivables, alors pour une pomme de terre, c'est 6 mètres. Bon, enfin voilà, je pense que ça fera écho à de nombreuses AMG, hein, des gros hippies comme nous, des bouffeurs de carottes. Petit rappel, pour les Parisiens, le samedi 10 octobre, il y a la marche pour l'abolition des abattoirs et pour le droit des animaux. Donc ça partira a priori de 14h à Stalingrad, à Paris, donc, et voilà, ça s'appelle aussi la Veggie Pride, même si, bon, je suis pas fan des anglicismes. Donc, il y aura des stands de bouffe, il y aura des trucs super bons à manger, ce sera hyper sympa. Et puis, bon, bah, ça pourrait peut-être faire l'occasion d'un petit reportage pour la Bassiste Justice, je sais pas, je lance l'idée. Donc, allez, on continue à se battre, et puis, bon, bah, comme dirait l'autre, hein, à la fin, c'est nous qu'on va gagner. Allez, bisous.
Oui, bonjour à toute l'équipe, c'est Philippe du Pas-de-Calais. Je vous appelle pour vous signaler qu'une journée de soutien à l'association Terre d'Errance aura lieu à Noranfonte, près de Béthune. Terre d'Errance est une association née en 2008 et ses membres permettent aux exilés d'accéder à un minimum d'hygiène, de soins et de nourriture. Ils ont besoin de votre soutien. Rendez-vous donc au camp de Noranfonte, près de Béthune, le samedi 10 octobre à 11h. Des concerts solidaires sont organisés pendant cette journée. Buvettes et buffets partagés. Cakes, tartes salées ou sucrées sont les bienvenus. Merci.
Bonjour. L'association France-Palestine Solidarité de Rouen organise son deuxième festival du cinéma palestinien Regard sur la Palestine au cinéma Omnia rue de la République. 3 jours de films, 8 films, courts, longs, moyens métrages, documentaires, débats politiques et cinématographiques. Les 9, 10, 11 octobre à Rouen. Au revoir.
Prenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup, où es-tu? Que fais-tu? Tout est là.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, à Roissy avec les personnels d'Air France.
Flight number 2, arriving from New York.
Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen.
Bienvenue à tous. Des cadres et des directeurs malmenés, en fuite, précipités, vêtements déchirés, l'image n'est pas banale.
Nous avons tous en mémoire ces images hallucinantes au siège d'Air France.
Cliché d'une violence incroyable, ceux des dirigeants d'Air France au bord du lynchage par des salariés de l'entreprise.
Les extrémistes d'Air France vont-ils tuer la compagnie ?
Moi, je peux vous dire qu'on m'a dit, si ce sont ces gars-là qui font la maintenance, moi je ne monte plus dans les avions.
En cas de dépressurisation, un masque à oxygène tombera automatiquement à votre portée. Tirez sur le masque pour libérer l'oxygène, appliquez-le sur votre visage.
Deux dirigeants d'une grande entreprise française, l'un torse nu, l'autre en haillons, encerclés, poursuivis, jetés à terre par leurs propres salariés.
Bousculés, vêtements déchirés,
la chemise en lambeaux,
torse nu.
Il leur faudra enjamber ce grillage pour échapper à leurs assaillants.
Mais les images que vous allez voir vont bien au-delà des normes communément admises lors d'un conflit social.
Il y a des rapports conflictuels dans beaucoup d'entreprises.
Un peu de lutte des classes quand même.
Là, on a failli lyncher quelqu'un.
Les agissements sont l'œuvre de voyous. Et il faudra des sanctions lourdes.
Merci pour votre attention. Au nom de toute la compagnie Air France, nous vous souhaitons un excellent vol.
Et ben voilà, on est parmi ces gens-là, comme dit Calvi, notre ami Calvi, notre cher confrère Calvi. Si c'est ces gars-là qui font la maintenance, je ne monte plus dans les avions. Ben ils sont autour de nous, ceux qui font pas seulement la maintenance, mais qui pilotent les avions, qui sont au sol ou pas au sol. Et il y en a quelques-uns qui sont autour de nous. On aurait bien voulu vous présenter Erika. Erika, elle est devenue en quelques heures une vedette. Pourquoi ? Parce qu'elle a dit exactement le contraire de tout ce que vous venez d'entendre. Dans une même journée, on a eu ça, on a eu cette véritable violence médiatique et politique, ce véritable lynchage médiatique et politique contre la supposée violence des salariés. Mais dans la même journée, il y a une femme qui est apparue sur le net, qui est apparue un peu partout, enfin essentiellement sur Internet, et qui, avec une très grande sincérité, une très grande spontanéité, remettait un peu la balle au milieu du terrain. On aurait voulu l'avoir avec nous. Ce n'est pas possible pour des raisons qui sont liées à l'entreprise elle-même et au rôle qu'elle entend tenir désormais, c'est-à-dire une certaine réserve. Mais nous avons avec nous d'autres protagonistes, on va dire, ou d'autres salariés de l'entreprise qui sont impliqués dans cette affaire et qui sont intéressés dans cette affaire et qui ont envie d'en parler. Avant même d'en parler, je vous propose d'entendre cette archive. C'était sur RTL et c'est un certain Pascal Pro qui vous parle.
Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Le Pro de l'Info.
8h12, bonjour Pascal Pro.
Bonjour Yves.
Les images des dirigeants d'Air France ont fait le tour du monde et elles vous ont indigné, Pascal.
Syndicaliste voyou, pilote nanti, défense des avantages acquis, refus des réformes, Air France illustre jusqu'à la caricature le mal français. C'est quoi la prochaine étape ? Le goudron et les plumes ? Pour le DRH d'une grande entreprise? Et quand j'entends la voix tremblante ce matin de Xavier Brossetta, le DRH d'Air France, victime visiblement du syndrome de Stockholm, expliquer qu'il faut reprendre la négociation, les bras m'en tombent. Discuter avec la CGT, qui réinvente la lutte des classes chaque matin, qui intimide, qui hystérise, qui pourrit le débat et qui envoie ses gros bras pour faire le coup de poing. Soyez ferme, Monsieur Brossetta, ce n'est pas un discours d'apaisement que je vous ai entendu tenir. C'est un discours de faiblesse. Air France brûle par les deux bouts. La société a manqué le low cost et le haut de gamme. Réformer, changer, supprimer dans une entreprise en difficulté, faiblesse devient crime.
Faiblesse devient crime. Je voudrais bien avoir vos réactions aux uns ou aux autres. Je vais commencer, tiens, par Youssef Sifi, qui est délégué du personnel CGT Air France. Quand même au secteur VIP, on s'en parlera peut-être après, mais Youssef Sifi, comment vous réagissez à ce que vous venez d'entendre là, par exemple ?
Moi, je suis extrêmement choqué déjà dans un premier temps du manque de réserve que peut avoir le journaliste sur la vision qu'il a du personnel Air France. Le personnel Air France, c'est un personnel qui délivre une prestation de qualité. Ce n'est pas des incidents isolés qui ne représentaient d'ailleurs pas du tout l'esprit de la manifestation qui était extrêmement bon enfant avec une diversité du personnel qui était assez remarquable. On avait un nombre considérable de personnel au sol, de personnel navigant, de personnel...
Un peu comme autour du micro, là, on a un pilote retraité, on a du personnel au sol, c'est ça, les uns et les autres. Moustapha Litim, vous êtes responsable du chargement ?
Agent de piste, ouais, responsable de chargement RZA, plus connu sous le nom d'RZA.
D'accord, on va faire un tour de micro. Gérard Arnoux.
Oui, bonjour.
Ex-commandant de bord.
Oui, et donc jeune retraité, donc intéressé aussi par le sort d'Air France, hein, et à plus d'un titre. Et également président du comité de veille de la sécurité aérienne. Je m'occupe de familles de victimes de crash aérien. Et on est très impliqué dans l'aspect sécurité qui, et ce conflit social peut éventuellement avoir des liens avec la sécurité des vols.
D'accord, Guillaume Pollard.
Donc moi, je suis commandant de bord à Air France sur Airbus A320 et président du syndicat de pilotes de ligne d'Air France, Alter.
Et Karim Taibi ?
RZA, comme Moustapha Litim.
D'accord.
Sur la piste. Oui. Mais ça fait 7 ans que je suis délégué syndical, donc je suis secrétaire adjoint du syndicat Force ouvrière. Bon.
Comment vous avez réagi les uns ou les autres en entendant notre Premier ministre réagir de cette façon aussi
Je suis pris à être d'accord avec lui.
Guillaume Pollard, commandant de bord, d'accord quand avec Manuel Valls.
Quand il dit que la violence était inadmissible dans notre société, je ne peux qu'applaudir dès demain. Bon, le problème, c'est de savoir ce qu'on entend par violence. Mm-hmm. Donc il y a la violence effectivement physique, qui se voit bien, et puis il y a la violence sourde, cachée, qui est celle des licenciés, qui tombent en dépression, qui divorcent, qui éventuellement se suicident. Et celle-là, effectivement, intéresse beaucoup moins les médias. Donc le problème, c'est que dans la bouche de notre Premier ministre, effectivement, ce que je comprends, c'est qu'il trouve inqualifiable qu'on s'attaque physiquement seulement.
Mais comment vous avez réagi les uns et les autres, ce qui s'est dit dans les médias, dans la presse, enfin ça a duré, ça continue d'ailleurs. Comment vous avez réagi, Gérard Arnoux ?
Moi, un peu de l'extérieur, hein, puisque je suis retraité. Je me suis fait agresser dans mon pressing ce matin, d'ailleurs.
Ah bon ?
Oui, tout à fait. Peur des gens, mais c'est scandaleux. L'image d'Air France, vous ne vous rendez pas compte.
L'image, oui.
Oui, l'image. Mais je ne vois pas pourquoi on en fait un tel événement. Je veux dire, dans tous les conflits sociaux, il y a toujours eu des dérapages. C'est pas nouveau.
Bien sûr.
Dans tous les conflits où il y a des menaces de licenciement, de fermeture d'usine, on connaît que ça.
Oui.
Je veux dire, pourquoi monter en épingle cette affaire d'Air France ?
Ça fait diversion. Vous avez été victime d'une diversion. C'est tout à fait
exactement.
Classique.
Oui, il a été quelque peu molesté, mais il n'est pas allé à l'hôpital, il n'y a pas coupé blessure. Je veux dire, moi, je suis très surpris. De l'emballage médiatique, mais comme vous l'avez bien fait remarquer, Daniel, c'est voulu. Il faut fustiger les gens, il faut les mettre mal, y compris par rapport à leurs voisins, pour leur donner des complexes, pour mieux leur taper plus facilement dessus.
Vous étiez dans la manif, Guillaume.
Je veux juste rajouter qu'il y a, pendant la manif, donc nous sommes allés bloquer le terminal 2 et F. Une hôtesse s'est fait plaquer au sol et gazer par les CRS. Je remercie les journalistes d'avoir pris de ces nouvelles, elle va mieux. Un commandant de bord s'est fait plaquer au sol et matraquer. Je remercie les journalistes de s'être préoccupés de son sort. Il va mieux.
Une journée d'ITT.
Et une journée d'ITT. Alors que monsieur Brossetta, lui, manifestement, n'a pas eu de journée d'ITT.
Il a pris une douche, il est revenu, il était frais comme un gardon.
Frais comme un gardon.
Exactement.
Est-ce qu'il a sauvé son ordinateur ?
Un iPad.
Il avait son iPad. Il l'a protégé jusqu'au bout. Il était serré sur son iPad. Il devait y avoir des choses vachement importantes et précieuses
dans
cet iPad.
Dans la foule, faut qu'on remette. Il n'y avait que des pères de famille. Il n'y avait pas de jeunes voyous. Parce que quand on dit, voilà, c'est des jeunes voyous et tout, on voudrait infantiliser la lutte. Voilà. On est tous des pères de famille, on a tous des projets de vie. Ouais. Aujourd'hui, ils veulent nous imposer un projet d'entreprise qui va voir certains de nos collègues disparaître. Donc, leur projet de vie à eux, il est remis en question. La personne qui a pris un crédit à 24 ans quand elle s'est mariée, quand sa femme elle lui a dit « je suis enceinte », il a pris une maison sur 30 ans. Et ça, c'est l'ensemble des salariés d'Air France, qu'ils soient pilotes, qu'ils soient agents de piste. Ils ont leur projet de vie. Aujourd'hui, les 2900 licenciements, on ne peut pas les accepter.
Youssef,
oui. Vraiment, ce que j'aimerais qu'on précise, parce que peut-être que les intervenants, je ne pense pas qu'ils l'aient précisé, Moustapha et Karim étaient présents dans la salle. Ils étaient venus pour contester l'argumentation de la direction et tout. Ils se sont retrouvés quand même ces voyous syndicaux qu'on entend, ce qui est Pascal Pro qui disait c'est criminel. Hein. Donc ces criminels se sont retrouvés à faire des gardes du corps de gens qu'ils étaient venus contester. Donc on voit bien que c'est quand même une nouvelle criminalité qui émerge. C'est une criminalité responsable. Hein. Donc on va commencer à recadrer. Donc aujourd'hui, autour de la table, vous avez des gens qui étaient en première ligne, qui étaient là, et qui, quand face au débordement d'une foule, un peu l'esprit de masse, et ben, ceux qui sont à l'intérieur, ils sont tout autant surpris, la direction comme les délégués. Ça dégénère, les délégués se mettent à... Moi qui étais à l'extérieur, j'ai pas vous montré les photos de famille ou les vidéos de famille, mais vraiment, c'était super bon enfant. Tout le monde était content, en plus, d'avoir une unité professionnelle, parce que ça fait quand même des mois qu'on nous rabâche, si les pilotes signent pas, c'est le sol qui va être licencié, si le sol fait pas ça, c'est... Et donc, nous, on s'est retrouvés tous à manifester pour dire, bah écoutez, l'emploi, on est tous liés aux uns les uns aux autres, si lui disparaît en tant que commandant de bord, bah, je sais qu'il y a 250 personnes, parce que la ligne n'est pas effectuée, donc il y a 250 personnes au sol qui disparaissent, et donc, il n'y a pas besoin de nous opposer, on sait qu'on a besoin les uns des autres, on le sait tous.
On va parler un peu plus de l'entreprise et comprendre aussi quels sont les problèmes de l'entreprise, selon vous. Mais auparavant, je voudrais quand même qu'on reste encore sur cette histoire de violence, de lynchage, de voyous. C'en est où ? On les a trouvés, ces assassins ?
Stand-by. Mais on
Karim, pas... Karim Betaïbi, voilà. Où est-ce que vous les cachez, ces lyncheurs ?
Je ne sais pas. La police fait son enquête. Donc voilà, il y a des caméras de partout. Hein,
C'est vrai ?
On est en 2015, donc ils m'ont trouvé.
Oui, on les surveillait.
Exactement. En même temps, tous les syndicats ont condamné les violences. Mais nous, on a condamné aussi la violence sociale. Voilà, on arrive dans le CCE, le but n'était pas que M. Brossetta ou M. Pissonnier finissent en chemise. Aucun syndicaliste digne de ce nom a voulu ça. Donc voilà,
D'accord. Ça
a dérapé, mouvement de foule, incontrôlé. Maintenant, quand M. Valls vient à Air France, j'aurais aimé aussi qu'il parle des 2900 suppressions de postes,
qui
nous parle que des chemises, le Premier ministre. Voilà, c'est un petit peu light. Ça aurait été bien. Oui, les chemises, c'est intolérable, etc. OK.
Ouais,
Une fois qu'on a balayé ça, on parle du fond. Il y a 2900 suppressions de postes. Et le lendemain, on apprend par le canard enchaîné qu'il y en a 5000 secrets à partir de 2017.
Ce à quoi la direction répond non,
oui,
le canard enchaîné, c'est trop.
Sur les dernières années, mes collègues, tous les chiffres qu'on a appris par la presse, que la direction a démenti, ça s'est toujours avéré. Donc là, ils démentent, on en reparlera en 2017. On sera là autour du plateau.
Guillaume Pollard, rappelle commandant de bord, Guillaume.
Les 3 000 suppressions de postes, je vais arrondir, en 2009, j'ai arrondi à 3 000. Ce chiffre de 3 000 a déjà circulé il y a quelques mois et avait été bien entendu démenti.
Mais ils avaient raison, parce que ce n'était pas 3 000, c'était 2900.
Tout ça pour dire qu'effectivement, on s'aperçoit de plus en plus, la violence, elle arrive quand aussi ? Quand on n'arrive plus à discuter, on a quelqu'un en face de soi et il est autiste, il méprise, il fait des simulacres de négociation. Et ça, c'est un gros problème, c'est qu'on n'a plus de dialogue avec la direction. La direction est obligée d'ouvrir les négociations de par la loi, mais on s'aperçoit qu'à l'entrée, on vous demande 17% d'efforts et au bout d'un mois, on vous demande 17% d'efforts.
Air France perd sa chemise.
Sa chemise a été mise en lambeaux.
Il ressort de ce siège social d'Air France, sans chemise.
Deux cadres d'Air France, violemment pris à partie par des syndicalistes, qui s'enfuient sous escorte et sous les huées, chemise déchirée. Chemise déchirée.
Et moi j'ai tombé la chemise.
Sans chemise.
Et moi j'ai tombé la chemise.
Sa chemise a été mise en lambeaux.
La chemise déchirée, escaladant une clôture pour échapper à ses salariés.
Chemise déchirée.
Sans chemise.
Ce directeur a littéralement dû fouiller la salle de réunion et en passant, il s'est fait arracher chemise et lunettes. La tension, on le voit, est à son comble.
Le directeur d'Air France à Orly, Pierre Pissonnier, a également fini torse nu.
France Inter, Patrick Cohen, le 7-9.
Le numéro 2 du MEDEF est votre invité, Léa Salamé.
Bonjour Geoffroy Roux-de-Bézieux.
Bonjour.
2900 postes supprimés, c'est aussi violent. Je ne justifie pas, mais j'essaie de comprendre.
Ce qui est violent,
des hôtesses,
pas...
des stewards, des pilotes qui vont perdre leur emploi. C'est la quatrième vague de suppression d'emplois à Air France depuis 4 ans, depuis l'arrivée d'Alexandre de Juniac à la tête d'Air France. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'à un moment, il y ait aussi cette violence qui s'exprime quand on sait qu'on va perdre son boulot ?
Ce qui est violent, Léa, mais c'est pas de perdre son emploi, c'est pas en retrouver.
le problème de la France, c'est pas la destruction d'emplois, il y en a partout
dans le monde.
C'est aussi de perdre
son travail, pardonnez-moi, avant de
partir. Non, non, si on est sûr, ou si on a une chance raisonnable de retrouver un autre travail, peut-être dans un autre métier, ça n'est pas un problème, ça se passe. Vous savez, les restructurations de compagnies aériennes, il y en a eu partout. Les gens d'Air France qui réagissent violemment, ils sont inexcusables, mais ils se disent « je perds mon emploi d'hôtel, je perds mon emploi, enfin quel que soit, ouais. et je ne vais pas en retrouver ». Alors que ce n'est pas vrai qu'il y a des emplois qui se créent, on a créé plusieurs centaines de milliers d'emplois l'année dernière. Oui, le net n'est pas positif aujourd'hui, mais il y a une possibilité, il faut se reconvertir, il faut se former. C'est ça le sujet, le vrai sujet de l'économie.
Donc voilà la solution, les amis, c'est de se reconvertir. Donc soyez un peu plus dynamique. Vous êtes là, soyez moderne.
Je vais le dire à Francis. Il a 54 ans. Je vais lui dire de se reconvertir, à ramasser les plateaux McDo, à ramasser, je sais pas moi. Voilà, c'est.
Qui change de métier.
Qui change de métier. Voilà. Mais ce monsieur-là qu'on vient d'entendre, pour moi, c'est un anti.
J'allais dire le même. C'est Geoffroy Roux de Bézieux.
Voilà. C'est un anti. Qui se recycle.
C'est le numéro 2 du MEDEF.
Qui se recycle. Qu'il se recycle, qu'il aille faire autre chose. Lui, s'il a la liberté, il a le confort de pouvoir changer de métier ou de changer de d'entreprise comme ça, au bon gré, il le fasse, lui. Nous, on ne peut pas.
Bon. Non, mais Moustapha, je t'arrête. Lui, il Karim. A le réseau pour. Et un monsieur 2, il a le réseau. Le Pôle emploi, il ne connaît pas, lui. Le Pôle emploi, c'est un mot qu'il a entendu. Il sait que c'est une agence où il y a des personnes qui vont. Il ne sait pas trop ce qu'ils y font. Lui, c'est monsieur 2, c'est un homme de réseau. Voilà, il est numéro 2 du MEDEF. Donc, pour lui, je ne m'inquiète pas du tout. Et voilà. Bon.
Expliquez-nous les catégories de les grandes catégories de personnel d'Air France. On va demander ça à Gérard Arnoux, okay. Par exemple. Il y a ceux qui volent, les pilotes, l'élite, ceux qui sont habillés beaux avec des casquettes.
Il y a les navigants et ceux qui sont personnels au sol. Voilà.
Combien au total vous êtes à Air France ?
55 000, je crois.
Voilà. 55 000 Air France. Bon, alors, parce que je voudrais savoir comment ça fait quand on est comme Moustapha au sol ou comme Youssef plutôt dans les bureaux, plutôt dans les services. Comment est-ce qu'on on vit avec des gens qui gagnent 10 fois, 20 fois ce que vous gagnez ?
Bah écoutez, on n'a pas les mêmes fonctions, on n'a pas les mêmes responsabilités, on n'a pas le même travail. On a un lien ensemble, on n'est pas opposé, contrairement à l'angle médiatique qui a été utilisé ces derniers temps pour pouvoir faire du chantage à une catégorie de personnel sur une autre. Nous, notre boulot, on a besoin des commandants de bord, sinon l'avion ne décolle pas. Ouais. Le commandant de bord a besoin de quelqu'un pour charger ses soutes, sinon les passagers n'auront plus de bagages, et ainsi de suite. On est tous dépendants les uns des autres et on n'a pas...
Mais ce qui a frappé dans les images qu'on a vues, ces images de, entre guillemets, violence, c'est que c'est pas dirigé contre les pilotes. Il y a une sorte d'unité dans l'action. Guillaume Pollard, commandant de bord.
Voilà. Oui. Donc, juste pour revenir un petit peu sur les chiffres des salaires, un pilote en début de carrière gagne à peu près entre 3 à 4 SMIC et finit à peu près à 13 SMIC, 14 SMIC.
C'est-à-dire, ça fait quoi
15 000, 17 000. On commence à peu près ça tourne près de 3500 euros. Ça peut tourner aux alentours de 14 000, 15 000 euros.
C'est ça. Alors, ce que vous dites, c'est qu'à l'intérieur du personnel de la famille Air France, ça ne pose pas de problème particulier.
Bon, a priori, ben là, on va le demander.
C'est ce
que je voulais surtout souligner, c'est que le salaire, il y a d'autres salariés Air France, qui s'appellent les hauts dirigeants, eux, termine à 60, 55, 60, 60 SMIC ou à 100 SMIC. Monsieur le PDG d'Air France a un salaire fixe de 600 000 euros et peut monter en part variable à 600 000 euros aussi de part variable, ce qui peut lui faire un salaire de 1,2 million par an. Donc c'est vrai que les différences qui existent et qui sont entre les pilotes à Air France et mes collègues Sol ou PNC, personnels liants commerciaux, donc hôtesses et stewards, sont importants sont quand même notables, mais sans commune mesure avec ceux qui nous dirigent. Oui. Au passage, pour la petite histoire, dans le dernier bilan social d'Air France, on apprend que les 10 plus hauts salaires d'Air France, au sol, donc la direction, ont augmenté de 10% les deux dernières années, alors que la masse salariale globale est en légère diminution.
Ça me semblait important d'aborder cette question, parce que vu de l'extérieur, Air France, c'est le luxe, c'est des gens qui sont plutôt gâtés, qui sont habillés beaux. Voilà, c'est pas des gens à plaindre.
L'essentiel, c'est que...
C'est Moustapha qui parle.
Moustapha de piste. L'essentiel, Moustapha on est une équipe. Nous c'est entre Air France. Il y a un commandant de bord, il y a un copilote, il y a une PNC, il y a les agents d'enregistrement, on forme une équipe. Et nous, on gagne nos sous, notre compagnie aérienne gagne des sous en faisant des rotations sur des lignes. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas de comparer le salaire du commandant de bord avec celui de l'agent de piste. Moi, le salaire des 10 décideurs d'Air France, il me donne plus le vertige que celui du pilote. Un chirurgien dans un bloc opératoire, oui. On peut pas demander à l'infirmier d'avoir la même rémunération que le chirurgien. L'essentiel, oui. C'est que chaque personne qui se fasse opérer dans ce bloc opératoire, elle en sorte en toute bonne santé. Et c'est ça notre intérêt. On a un commandant de bord qui pilote un avion, et nous, on est garant au sol de la sécurité de l'avion. Donc c'est complémentaire.
Là, on donne des chiffres. La rémunération de Alexandre de Juniac en 2014, qui est de 645 000 euros.
Je ne les aurais pas dans toute ma vie entière. Je travaille toute ma vie entière, je ne les aurais pas. Moi, un pistard.
Tout le monde pense qu'on est des nantis, et en travaillant à Air France, on ne paye pas l'avion et on gagne tous 10 000 euros. Ce n'est pas ça du tout la réalité. La réalité, c'est que le salaire, elle l'a bien dit, Erika, c'est 1 800 euros en travaillant les jours fériés, les week-ends.
Erika, c'est cette jeune femme, il faut le rappeler. Femme, voilà. Qui a ému tout le monde.
Tout à fait. Quand elle a dit 1 800 euros, pour avoir les 1 800 euros, elle vient travailler les dimanches, les week-ends. Elle travaille le matin à 5 h du matin. Elle fait des heures de nuit. Pareil pour les billets d'avion. On ne voyage pas gratuitement. Peut-être avant, dans la grande gloire d'Air France, dans les années 80, quand c'était une boîte totalement de l'État, c'était comme ça. En 2015, ce n'est pas du tout ça.
Y'a-t-il un putain de pilote dans l'avion? Y'a-t-il un putain de pilote dans l'avion? Y'a-t-il un putain de pilote dans l'avion?
Le tour de force d'Emirates, c'est d'avoir réussi à faire passer par Dubaï des passagers qui avant ne se seraient jamais arrêtés au milieu du désert.
Vous êtes ici entre l'Europe et l'Asie, entre l'Afrique et la Chine, entre l'Inde et les États-Unis. Vous pouvez organiser beaucoup de correspondances via Dubaï parce que la manière la plus rapide d'aller de Adélaïde à Lyon, d'aller de Saïgon à Glasgow, c'est de passer par Dubaï.
Comment cette compagnie peut-elle afficher des tarifs aussi compétitifs et attirer toujours plus de clients? Emirates ne veut pas trop en parler, mais à Dubaï, le climat fiscal est aussi très favorable. Pas d'impôts sur les sociétés et des taxes d'aéroport 40% moins chères qu'à Paris. Et dans ces immenses hangars, il y a encore une autre explication. Ici, tous les avions de la compagnie passent leur visite technique.
Ça, c'est un A380. On vient juste de démonter le moteur pour le faire réviser.
L'entretien ne coûte pas très cher. Les avions sont récents, 6 ans d'âge moyen, moins de panne, moins de consommation de carburant. Mais surtout, la main-d'œuvre aussi est très bon marché. Yann Laclan, directeur de la maintenance, a 2000 personnes sous ses ordres.
Vous avez laissé un petit défaut là. Non, je plaisante. Je plaisante.
À Dubaï, pas de charges sociales, pas de salaire minimum.
On a des Indiens, des Pakistanais, des Philippins, des Malaisiens.
Et vous les payez combien?
Ah, ça fait partie des informations qu'on ne donne pas. Mais je peux vous assurer qu'on les paye suffisamment, parce qu'on n'a aucun problème pour recruter.
Nous n'aurons pas le droit de parler aux ouvriers pour le vérifier. Mais selon nos calculs, charges comprises, Emirates dépense en moyenne 40% de moins qu'Air France en frais de personnel.
Je voudrais quand même qu'on se place un peu, je vais vous demander de faire un gros effort et de vous mettre un petit peu à la place de ceux qui vous dirigent. Ceux qui vous dirigent, ils ont des gros problèmes, contrairement à ce que vous croyez. Ils ont des problèmes de concurrence. Voilà, votre entreprise Air France est en concurrence avec d'autres entreprises, avec par exemple, ce qu'on appelle le bas coût, je ne vais pas dire low cost, parce qu'à la radio, low cost, ça fait holocauste, et c'est quand même assez malheureux comme rapprochement. Vous avez cette concurrence-là. Vous avez aussi toute la concurrence des compagnies qu'on appelle les compagnies du Golfe, notamment Emirates, etc., qui posent des quantités de problèmes. Qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? C'est quand même pas rien, tout ça. On ne peut pas faire comme si il n'y avait pas cette situation.
Je vais poser une question, alors. Je vais répondre à la question par une question. Qui est le régulateur de tout ça? c'est l'État, l'État actionnaire. C'est lui qui donne les créneaux, qui donne les créneaux à Emirates, à Qatar Airways, à Etihad. Il vient de donner dernièrement des créneaux à Qatar Airways, à Lyon et à Nice en échange de la vente de 24 Rafales. Donc les 24 Rafales, c'est one shot. Ils vont payer tant de milliards, c'est one shot. Par contre, Qatar Airways, lui, va être implanté en France pendant X années. Voilà, attendez, il a les créneaux. Attendez,
alors, ce que vous expliquez, je vais essayer de comprendre. C'est-à-dire que la France vend des Rafales à qui donc ?
Au Qatar. Au Qatar, 24.
Okay. Le Qatar dit, nous, on vous les prend, 24.
On nous en prend 24.
Et en échange, vous nous ouvrez des lignes. Ces lignes qataries seront effectivement moins chères.
On ne pourra jamais concurrencer, même si on enlève tous les salariés d'Air France. Même si demain, il n'y a plus de salariés Air France. Air France ne sera pas compétitif. C'est des puissants fonds, c'est des pétrodollars, c'est des monarchies qui investissent dans leur compagnie. Ils ont des chéquiers illimités. Donc, quoi qu'il arrive, Air France ne peut pas se battre à armes égales vis-à-vis des compagnies du Moyen-Orient. Voilà, donc l'État laisse faire, dérégule. Au moins, il y a au moins un pays qui fait du protectionnisme. Pourtant, c'est les rois du capitalisme. C'est les États-Unis.
Eh oui.
Les États-Unis, Emirates, etc., ils leur vendent des Boeing. Mais par contre, ils ne viennent pas à tour de bras. Voilà.
Gérard Arnoux.
C'est assez d'accord avec ce que vient de dire notre collègue là. Mais s'agissant des compagnies du Golfe, les trois majors américaines viennent de porter plainte auprès des autorités de la concurrence US pour 41 milliards de subventions illégales. Ça, c'est un point. Ensuite, c'est une vision à court terme du ministre des Transports. Parce que de toute façon, les Qataris, les Émiratis, ils achèteront des Airbus. Ils n'ont pas le choix. Il y a deux grands constructeurs pour les gros avions, c'est Airbus, Boeing. Ils sont obligés de les mettre en concurrence. Donc, de toute façon, ils achèteront et des Airbus et des Boeing. C'est donc un mauvais calcul. C'est un calcul à court terme. Alors, s'agissant de Ryanair, là, on a affaire à un mafieux. C'est différent. Là, on est plus dans l'aviation. Là, on est dans quelque chose qui relève quasiment du pénal, puisque Ryanair a été condamné déjà par le tribunal de Marseille pour travail dissimulé, que Ryanair fait l'objet de procédures dans toute l'Europe, que Ryanair fait du racket aux chambres de commerce, c'est-à-dire qu'il prend les subventions qui sont autorisées par la Commission européenne pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, quand il n'y a plus de subventions légales, il dit aux responsables locaux de chambres de commerce, moi je m'en vais, j'ai plus de subventions. Alors à moins que vous remettiez la main à la poche. Donc ça s'appelle du racket. Et si on parle de Ryanair, alors si les employés de Ryanair et notamment les pilotes auto-entrepreneurs utilisés dans des paratifs fiscaux par des brokers qui les tiennent par la cravate de l'uniforme, parce que ces commandants de bord-là, est-ce que vous croyez qu'ils sont en mesure de faire un rapport de sécurité sur la compagnie ? Mais certainement pas. Il n'a même pas de contrat de travail, il n'a rien. Donc ce pilote-là, s'il déplaît à M. O'Leary, et M. O'Leary est très sourcilleux, puisqu'il interdit les syndicats dans sa compagnie, ce qui est contraire aux règles européennes. Le droit d'association est garanti en Europe. M. O'Leary se permet d'interdire les syndicats sans que personne ne dise rien. Donc je veux dire, où est-ce qu'on est là ? Et quant à M. Valls, là, qui ferait plutôt, au lieu de jouer le flic, là, le premier flic de France, c'est pas son boulot, ça, c'est pas ce qu'on lui demande. Il est représentant du gouvernement, M. Valls, qui s'intéresse à Air France, en tant que représentant du gouvernement. Alors, mon collègue vient de parler des créneaux, c'est très bien. Il n'y a pas seulement ça. Il y a ADP qui fait des bénéfices scandaleux sur le dos d'Air France.
Aéroport de Paris.
Et oui, aéroport de Paris. Et donc, on sait en plus que ce n'est pas un aéroport top modèle dans le monde. Et d'ailleurs, les compagnies commencent à l'éviter au profit des hubs, c'est-à-dire des gros aéroports du Moyen-Orient. Et donc, ADP fait des bénéfices absolument extraordinaires sur le dos d'Air France. Et on vient encore d'augmenter, je crois, leur redevance de
40% en 7 ans.
Enfin, en 7 ans.
Des chiffres astronomiques.
Là, M. Valls, il a du boulot à faire. Pourquoi il ne le fait pas au lieu de jouer le flic ? Et même, il se prend même pour un juge, puisqu'il s'est dit des sanctions exemplaires. Mais il est juge, M. Valls, ou il est Premier ministre ?
Alors on va comparer un petit peu les conditions sociales et les conditions de travail et les salaires entre vous et puis une autre compagnie.
Qu'ils soient EasyJet ou Air France, sur les vols court-courriers, 4 hôtesses et stewards sont présents à bord. Ils arrivent minimum 1h30 avant le vol. Ceux d'EasyJet doivent contrôler les bagages, pas pour Air France. En vol, pas de grande différence, le travail est le même. C'est au sol, au moment de la rotation que ça change. Express chez EasyJet, course contre la montre pour atterrir, faire sortir et rentrer les nouveaux passagers, mais aussi nettoyer la cabine et enfin redécoller en 30 minutes. Pas une de plus.
Il y a une pression au niveau du temps puisque c'est une question de coût. pour la compagnie, des économies quand on passe moins de temps sur le tarmac.
Ces escales sont en moyenne plus courtes que pour une compagnie traditionnelle. En revanche, la journée de travail est assez similaire. 4 vols en moyenne pour EasyJet comme pour Air France, avec un salaire équivalent 2400 euros net mensuel environ pour un chef de cabine dans les deux compagnies. La grande différence, c'est que chez EasyJet, on travaille beaucoup plus. 70 heures de vol en moyenne chaque mois, 55 pour Air France. Avec des plannings beaucoup plus flexibles, comme l'explique ce steward EasyJet, qui souhaite garder l'anonymat.
Ça arrive jusqu'à 2-3 fois dans la même journée, où on vous change pour le lendemain. On arrive à presque une vingtaine de changements sur un même mois. C'est usant, c'est très fatigant, c'en est dangereux même personnellement sur les trajets. Ça m'est déjà arrivé de m'endormir au volant sur l'autoroute en rentrant, effectivement.
Dernière petite différence, mais qui compte aussi. Les plateaux repas délivrés au personnel EasyJet sont souvent moins garnis que ceux des compagnies traditionnelles.
Alors, on n'a pas pris Ryanair, on a pris une compagnie EasyJet. Gérard Arnoux, vous me disiez, oui, enfin, EasyJet, c'est pas si mal que ça. C'est intéressant d'entendre ça et de vous entendre aussi là-dessus, parce que quand on est un voyageur, un consommateur, un usager, comme disait Youssef, ou un client, bon, on essaie d'avoir le moins cher possible, évidemment, quoi. Hein, il faut savoir ce qu'il y a derrière ce moins cher possible.
Ça trouve ses limites, le moins cher possible. Si on scie la branche sur laquelle on est assis, le moins cher possible, ça se termine pas plus rien du tout. Hein. Mm-hmm. Bon, ça c'est bon, mais après, on peut pas empêcher les gens d'aller chercher le moins cher. Ceci dit, EasyJet, c'est pas du tout comparable à Ryanair. C'est une vraie compagnie qui paye ses charges, qui paye ses taxes, qui triche pas, enfin, qui a tenté au début, mais qui le fait plus. La différence essentielle avec Air France, je dirais, c'est que effectivement EasyJet a été carrément le leader, avec l'administration britannique, d'un système de rotation des équipages qui soit au maximum physiologique tout en maintenant la sécurité. Donc c'est un truc qu'ils ont, enfin soi-disant, hein, et ça, ils ont été précurseurs dans ce domaine-là. Et donc effectivement, ils arrivent à faire travailler les gens de façon, moi que je qualifierais, d'excessive d'ailleurs, la fatigue bien évidemment, et on peut même s'endormir dans le poste de pilotage, hein, ça peut arriver. Bon, et puis EasyJet, c'est une boîte jeune, elle sous-traite tout, donc elle prend pas les passerelles dans les aéroports. Quand le sous-traitant n'a pas amené le tracteur au bon moment, c'est pénalité, c'est amende. Donc les gens se précipitent. À la limite, c'est punitif tout le temps. Et donc, alors effectivement, ils sont très performants. Ils ont du personnel jeune. Ils ont un fort turnover, un changement de personnel régulier. Donc c'est des gens qui vieillissent peu dans la compagnie parce que dès qu'ils peuvent aller ailleurs, bah, ils vont ailleurs où c'est plus confortable quand même, où c'est un peu moins dense comme activité. Donc effectivement, c'est ce qu'on appelle des compagnies minces, hein, qui sont performantes et c'est facile, effectivement, on peut l'être. Hein.
Mais avec des conditions beaucoup plus précaires pour les personnels.
Alors, on peut même parler de...
Précaires.
Ouais, on peut parler de doutes sur la sécurité. Alors, pourquoi la sécurité...
Plus la sécurité.
Pourquoi la sécurité a un lien avec tout ce dont nous parlons? Et moi, j'ai écouté attentivement mes collègues, j'ai approuvé tout ce qu'ils ont dit. Et c'est très intéressant parce qu'on voit bien qu'il y a une équipe dans la France. Il faut arrêter de diviser les gens. Il y a une équipe, je l'ai senti, là, sur ce plateau, ça se voit.
Il y a une famille.
Oui, même plus qu'une équipe, une famille. Donc du coup, si on utilise les règles européennes actuelles, qui sont plus laxistes que les règles américaines, les Américains ne peuvent pas travailler autant que nous. Eh bien, donc c'est tout dire, quand même.
Hein. C'est ce que dit Karim, hein, sur le protectionnisme
tout dire,
américain.
C'est tout dire. Hein. Ils n'ont pas le droit de travailler autant que nous, les pilotes américains. D'ailleurs, ils pourraient nous faire des histoires pour concurrence déloyale. Et donc, on arrive aux limites. Alors, quand M. de Juniac demande aux navigants de travailler davantage, moi, j'ai envie de dire, mais non, c'est bon, ça va, on travaille assez. Les pilotes, par exemple, pour parler des pilotes, ils travaillent 2% de plus que la moyenne européenne, donc on va dire équivalent. Hein. Et puis, juste un petit retour, Daniel, sur les salaires. Parce que j'en ai un peu marre d'entendre. Moi, j'ai jamais gagné 17 000 euros. J'ai toujours été bien payé, mais enfin, faut pas exagérer. Je veux dire, nos salaires, ils sont en ligne avec ce qui se pratique dans l'industrie, dans le monde entier. Et si on compare avec les collègues européens, on est 13% au-dessus des collègues européens. Mais ces 13%, eh bien, c'est le différentiel de charges sociales avec certains pays, puisque le différentiel de charges sociales entre la France et les pays européens, en moyenne, c'est 10%. Alors, ce n'est pas pareil chez les Anglais, ce n'est pas pareil chez les Allemands, mais on va dire une moyenne, c'est 10%. Donc, le problème d'Air France, c'est le problème de la France. On a un problème de mondialisation, c'est tout. Donc, et voilà, il est là le problème. Il faut l'élargir, le débat. C'est un problème de la mondialisation. À partir du moment où on est en concurrence avec des gens qui ne payent pas leurs salariés, les gens, vous savez que les pilotes d'Emirates, ils sont considérés en repos quand ils sont dans la couchette, dans l'avion. Ils arrivent à faire 130 heures dans la machine.
Et puis, Daniel, il faut comparer comparable. Quand on compare Air France avec, voilà, quand on compare Air France avec EasyJet, j'ai envie de dire, on compare Mercedes avec Dacia. On n'est pas sur le même produit. On ne peut pas comparer deux produits qui sont totalement différents. On est sur du low cost. Air France, on est sur le rayonnement de la France. On est sur un produit un peu plus haut de gamme. Donc, qu'est-ce que veut le politique? Est-ce qu'il veut descendre en gamme la marque Air France? Est-ce qu'il veut la descendre en gamme et qu'il veut que ça devienne une low cost? Ou est-ce qu'il veut que Air France continue à rayonner dans le monde et porte la France à travers le monde? C'est ça qu'il faut regarder.
Oui.
En 98, quand ils nous ont vendu la privatisation d'Air France, parce qu'on a oublié qu'on était dans une ancienne compagnie nationale, d'accord ? La structure de notre entreprise, elle pouvait absorber énormément de passagers, énormément d'usagers. On était au service du citoyen français, d'accord ? Donc, on avait une continuité territoriale. Quand ils nous ont vendu la privatisation, ils nous ont dit... au nom de la concurrence, pour faire face à la concurrence, on a besoin de privatiser cette entreprise nationale. Ils nous l'ont vendue comme ça, on l'a acceptée. Aujourd'hui, ils nous disent que les problèmes que rencontre la compagnie, c'est des problèmes concurrentiels. Et en face, quand on regarde, il y a qui ? Etihad, compagnie d'État. Emirates, compagnie d'État. Ryanair, elle touche des subventions du gouvernement irlandais. En face de nous, on n'a pratiquement que des compagnies subventionnées par des États. Et nous, au nom de la liberté de concurrence et tout ça, parce qu'on a été une entreprise publique et qu'on devient privatisé, on n'a pas le droit aux subventions.
Moustapha, ça rejoint ce que disait Gérard, qu'il dit, faut aller au fond du problème. C'est une affaire de mondialisation. À partir du moment où on est allé vers la dérégulation dans les années 70, et ben, tout, là, on est en train de vivre cette époque. Et ces choix politiques et idéologiques qui sont les choix de la dérégulation. Et aujourd'hui, même ceux qui sont les plus conciliants avec vous, avec Air France, qui disent, voilà, oui, quand même, etc., entreprise nationale, famille, violence, etc., disent quand même, il y a de la graisse, il y a du gras quand même, c'est un peu le mammouth, Air France, et il faudrait qu'ils se modernisent par rapport à toutes ces entreprises à l'étranger qui sont plus dynamiques, etc. Et personnellement, je pense le contraire. Je pense que c'est vous qui êtes à l'avant-garde, c'est vous qui êtes dans le progrès, et que les entreprises dont on parle, c'est eux qui retournent en arrière vers le Moyen-Âge, vers le 19e siècle, et vers tout ce que nos anciens ont fui et contre quoi ils se sont battus. C'est quand même ça l'essentiel. Oui, oui. Guillaume, Pollard.
Concernant EasyJet, il faut savoir aussi...
Pour ceux qui arrivent, je rappelle que Guillaume est commandant de bord.
Ce qui intéresse... notre direction dans le modèle d'EasyJet, c'est bien entendu le mode de fonctionnement, les demi-tours, etc. Mais c'est surtout la maîtrise de la masse salariale. Et EasyJet n'est pas chaque année au bord du dépôt de bilan, ce qui nécessiterait éventuellement effectivement de mettre la pression sur les salariés pour dégager un peu de profit. Non, le modèle c'est quoi ? C'est faire un maximum de profit et un retour sur investissement vers les actionnaires énorme. Je prends par exemple Ryanair, parce que c'est les derniers chiffres que j'ai eus. En 7 ans, 3,5 milliards d'euros de bénéfices, 3 milliards 1 de bénéfices reversés en dividendes aux actionnaires.
Voilà.
Ça les fait rêver. Et pour arriver à ce modèle-là, effectivement, au niveau d'Air France, eh bien, il faut assécher Air France, maîtriser la masse salariale. Leur ambition, ce n'est pas de développer l'entreprise. L'ambition, c'est de rendre une entreprise comme Air France aussi rentable que n'importe quelle autre. D'ailleurs, M. Juniac l'a dit il y a peu de temps, ils veulent un retour sur un investissement de 11%. Et on sait que l'industrie du transport aérien, historiquement, structurellement, parce que la sécurité de vol a un coût, parce qu'acheter un avion, ça coûte cher, parce que ça demande des salariés hautement qualifiés et qui méritent leur salaire, ça coûte cher. Ça,
Gérard Arnoux, vous, ex-commandant de bord, dans votre carrière, vous avez assisté et vécu ce retournement, ce passage d'une entreprise d'État à une entreprise en voie de privatisation presque complète, même si l'État est encore actionnaire à hauteur de 17%.
Oui, mais comme vous le disiez, Daniel, c'est avant ça, c'est la dérégulation mondiale. C'est ça le fond du problème. Et en dérégulant, on a ouvert la boîte de Pandore. C'est-à-dire qu'on a ouvert à une course au toujours au moins 10 ans qui, évidemment, nous tire pas seulement vers moins de sécurité, pas seulement vers des drames sociaux, ça crée aussi des problèmes environnementaux. Parce que quand
on
n'a
pas encore du tout parlé. Hein,
mais ça, c'est important, le problème environnemental. Oui, ben ouais. Parce que quand vous mettez plusieurs opérateurs sur le même segment, sur un Paris-Toulouse, par exemple, pour prendre un... Mais vous pouvez faire ça sur un Paris-New York, on s'en fiche. Là où vous mettez un avion de 400, 500 places, eh bien aujourd'hui, vous avez 4 avions de 150 places. Et au niveau carburant consommé, au niveau environnement, c'est pas du tout bon. Donc l'aviation, pour des raisons de sécurité, pour des raisons environnementales, n'aurait pas dû subir une dérégulation aussi violente. Qu'elle se soit modernisée au fil du temps, bien sûr, parce que les compagnies des années 50, ça n'a plus rien à voir avec aujourd'hui. Mais ça, c'est comme jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais la modernisation, les personnes d'Air France ne sont pas contre.
Voilà.
Réformer, améliorer, devenir plus performant, mais tout le monde est d'accord.
Tout ce que vous dites là, tous les cinq, et puis aussi ce qu'a dit Erika, qui n'est pas là, mais qui est présente quand même, c'est ce à quoi le public, l'opinion, n'a pas accès. Parce qu'on en est resté à cette histoire du début, cette histoire de lynchage, de violence, de castagne, est-ce qu'il faut être pour, contre, etc. Et finalement, on en reste là. Tout ce que vous dites là sur Air France, ces analyses qu'on fait peu à peu en avançant, en vous écoutant, on arrive évidemment à l'essentiel politique historique de l'époque que nous vivons. Toutes ces analyses-là, ça fait quoi, trois quarts d'heure qu'on parle ensemble, l'opinion, le public en sera privé. Hein, parce qu'il y a quelque chose qui a bloqué, au départ, le truc sur le vieux slogan « population laborieuse, population dangereuse ». Vous êtes tous, puisque là, vous vous mettez dans la même famille de travailleurs et de salariés, a priori, vous êtes des gens douteux dont il faut se méfier. Et là, on a assisté, malgré tout, à une certaine criminalisation d'une population et des travailleurs, tout simplement. Et c'est une vieille ficelle qu'on a vu se développer au XIXe siècle. C'est le retour de ça. Et qui empêche le débat, qui empêche de comprendre les luttes sociales et de comprendre qu'est-ce qui anime, qu'est-ce qui fait les luttes sociales.
C'est d'autant plus vrai que c'est ce qu'on vit aujourd'hui à la France. D'autres l'ont vécu avant nous, vont le vivre après nous. Je prends Sanofi Saint-Elabo, 7 milliards de profits, 2000 licenciements. 2000 suppressions d'emplois. Donc en plus, on se demande jusqu'où ça va aller. La vie, c'est sans fin en plus.
Oui. On peut parler des centaines d'entreprises en France.
Le nuage de fumée qui empêche de comprendre aussi, il vient aussi du fait que le réseau Juniac, la classe des dominants, qui possède en particulier tous les médias, sauf là-bas si j'y suis, je crois.
Il faudra qu'on voit dans nos abonnés, il y ait peut-être. Hein. C'est 5 euros par mois, il est capable de balancer 5 euros par mois, ce gars-là.
On lâchait les fameux nouveaux chaînes gardes. Donc c'est pour ça que c'est compliqué pour...
Daniel, c'est que c'est la dégringolade des classes moyennes.
Karim.
Nous, la classe moyenne, on est en train de la sabrer. Et nous, Air France, peut-être que ça va être un petit réveil pour les autres entreprises. Ils vont peut-être se reconnaître dans notre combat. Ils vont peut-être se réveiller un petit peu.
€35 pour voir Lisbonne low cost. Dans un avion Panetton low cost. Pour voir des filles dessous le string low cost. Qui chantent des chansons au refrain low cost. Voilà le club avec des lits low cost. Y'a une piscine, un jacuzzi low cost. Y'a des sourires et des bonjours low cost. En mini trip de 4 jours low cost. C'est le dictat du cheap, tout pour low cost. À la télé low cost, l'animateur elle sert votre low cost. Les paillettes volent sur les cancans low cost. Ça vole pas très haut, l'écran low cost. Faut croire qu'on nous prend pour des gens low cost.
D'abord, je me suis interrogé sur la définition des acquis sociaux. Si vous regardez la définition des acquis sociaux, il n'y a pas de définition vraiment. Et si vous en regardez la traduction en anglais, La traduction en anglais, c'est « social benefits ». Vous voyez que c'est assez différent en réalité. Et les deux différences, moi, que je vois par rapport à la traduction anglaise, c'est que chez nous, les acquis sociaux ont deux caractéristiques. Ils sont intangibles et irréversibles. Intangibles, surtout, on n'y touche pas. Irréversibles, surtout, on ne revient pas en arrière. Les acquis sociaux, c'est quelque chose de très, très flou. On peut y mettre les 35 heures, l'âge de la retraite, l'interdiction ou la limitation du travail des enfants. Enfin, vous pouvez y mettre un nombre de choses considérables. Je me suis penché sur la réglementation du travail des enfants, qui est un acquis social. Alors, vous savez que les premières réglementations, elles datent de 1840. Hein. Il fallait avoir au moins 8 ans dans des entreprises qui comptaient au moins 20 employés. Puis ensuite, c'est monté à 12 ans, puis ensuite, c'est monté à 16 ans. Donc, c'est assez intéressant. Progressivement, ça a évolué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même la notion d'enfant a évolué. Hein, c'est quoi l'âge d'un enfant de nos jours? Est-ce que c'est 16, c'est 18 ans, c'est 20 ans, c'est 22 ans? Comme me le disait mon homologue de Qatar Airways hier, à propos de la grève que j'ai eu à subir, il m'a dit « Monsieur de Juniac, chez nous, c'est juste pas possible, on les aurait tous envoyés en prison. » Je lui ai dit bah, « Pas chez nous. » Pas chez nous. Non mais c'est... Donc vous voyez, une concurrence qui rend les choses un peu compliquées hein, pour nous, face à des gens qui n'ont pas les mêmes droits ou les mêmes acquis sociaux.
Et vous avez de la chance de ne pas être en prison quand non, même. Hein. Vous êtes en liberté quand même. Autour de ces micros, les lyncheurs, les violents, les voyous sont encore en liberté quand même dans ce pays.
T'as remarqué quand même le tonnerre d'applaudissements quand il évoque de mettre... les pilotes en prison, ou les salariés en prison. Le tonnerre d'applaudissements dans la salle. Mais depuis tout à l'heure, il parle d'acquis sociaux, monsieur de Juniac. Moi, j'ai envie de parler de ses privilèges. Parce que lui, ce n'est pas les acquis sociaux qu'il a. C'est des privilèges qu'il a. OK ? Monsieur de Juniac, il est né dans le bon berceau, où il fallait, et voilà. Donc, nous, on a des acquis sociaux qui ont été transmis par nos parents et nos grands-parents, qui se sont battus, qui ont lutté pour ça. On en est fiers. Et dans toutes les entreprises françaises, hein, on en a de moins en moins. Par contre, leurs privilèges, il n'y en a pas de moins en moins. Au contraire, ils sont en augmentation d'année en année. On est toute cette caste, cette oligarchie, il faut dire, c'est l'oligarchie française. Pour eux, les acquis sociaux, il faut les réduire, mais leurs privilèges, il ne faut surtout pas y toucher.
Un dernier mot, chacun va faire un dernier tour de table. Qu'est-ce que vous souhaitez maintenant, au point où vous en êtes, de cette lutte et de cette situation à Air France ?
Youssef Sifi.
En toute sincérité, ce que je souhaite, c'est déjà qu'on puisse retourner à un débat apaisé sur la situation de l'entreprise, qu'on ait un discours et un dialogue qui soit honnête et sincère, hein, qu'on ait des dirigeants qui arrêtent de communiquer avec des organes de presse et donc qui communiquent avec l'opinion publique. Moi, j'aimerais qu'ils viennent autour de cette table ou qu'ils disent « Oui, effectivement, donc j'ai demandé aux pilotes de travail gratuitement, ils ont refusé. Les gens du sol n'ont pas voulu mettre leurs enfants à 8 ans au travail. C'est inadmissible. Vous comprenez que le premier qui bouge, il va en prison. » Enfin, il se plaint du modèle de Qatar Airways. Il en loue le comportement. C'est quand même étrange. Quelqu'un qui dit « Ils nous font concurrence, c'est pas bien. Par contre, ce qu'ils font, c'est super. » Ben, moi, j'aimerais qu'on se repose tous ensemble, calmement, qu'ils viennent parler, qu'ils posent concrètement le débat. Ils disent, ben voilà, moi, j'ai pour tant de privilèges, quand je voyage, ça me coûte tant, quand je fais ça, ça me coûte tant. Combien vous, en tant que personnel, ça vous coûte? Effectivement, moi, quand je voyage automatiquement du fait de ma caste, comme a dit, je voyage automatiquement minimum en classe affaires. Hein, moi, voyager en classe affaires, vous savez quand est-ce que ça m'est arrivé? Ça m'est arrivé quand j'ai rencontré ma femme et que j'ai voulu lui faire plaisir. 15 ans d'entreprise, un voyage en classe affaires. Voilà le nanti que vous avez en face de vous.
Moustapha ?
Ce qui nous arrive à Air France, de toute façon, c'est ce qui s'est passé. Avant nous, on est le ministère des Transports, lié au ministère des Transports. Avant nous, il y avait le ministère de la Télécommunication. Vous connaissez, vous savez de quoi je parle, vous êtes l'antenne de radio. La télécommunication, ils l'ont flinguée. Avant, on avait la PTT, après ça s'est transformé en La Poste, et puis de l'autre côté, France Télécom. Après France Télécom, ils ont pris un européen, et ils ont privatisé tout ce qui était communication au niveau de l'État. Là, le ministère des Transports, ils ont viré les autoroutes, ils les ont vendues. Ils sont en train de voir comment ils vont virer les rails. Le réseau national aérien, ils ont commencé à le démanteler. C'est notre combat à nous aujourd'hui. Donc le ministère des Transports, bientôt, ça va être obsolète, ça va être du passé. Puis derrière, il y a quoi? Il y a le ministère de la Santé. Donc demain, ils vont privatiser aussi la santé. Puis derrière, il y aura quoi? Le ministère de l'Éducation nationale. Et ensuite, on va privatiser l'éducation nationale. Aujourd'hui, on est en train de privatiser tout ce qui est mission de service public. Et on est en train de désengager l'État sur des choses qui étaient fondamentales dans notre pays. L'éducation des enfants, la santé, le réseau, voilà, le transport, pour que chaque travailleur français il puisse se lever le matin, avoir un bus, un train, un avion, une autoroute pour pouvoir aller créer de la richesse.
Ça, c'est le constat. L'action, c'est quoi ?
L'action, c'est aujourd'hui, au-delà de nous, nous, on est en train de mener une lutte interne à Air France pour défendre nos emplois et un vrai savoir-faire. Parce que je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, vous allez en toute sécurité, vous voulez voyager en toute sécurité et avoir la meilleure prestation, venez à Air France. C'est toujours d'actualité. Aujourd'hui, on a une entreprise qu'il faut défendre. Et au-delà de tout ça, on demande à l'opinion publique d'adhérer à notre lutte parce que bientôt, tout sera privatisé dans ce pays et il n'y aura plus rien dans la main de l'État. Ça va être des lobbies capitalistes avec des fortunes colossales qui pourront payer des pages de pub et mettre des arrêts de bus là où ils voudront qu'il y ait des arrêts de bus. Donc voilà, on aura bientôt des zones comme Neuilly. Ils seront protégés par une police nationale avec des professeurs, l'éducation nationale avec des vrais chauffeurs de bus. Voilà. Et puis, on aura Aubervilliers ou Aulnay-sous-Bois avec des sociétés de sécurité pour faire le travail de la police, des centres de formation qui vont nous former à être des pizzaïolos ou des je sais pas quoi, subventionnés. Voilà. Et puis, on n'aura plus rien. Il n'y aura plus de mission de service public. Et sachez une chose, vite fait, et j'arrête parce que moi je suis un passionné. Je suis passionné par ce pays, je suis un passionné par la lutte. J'aime la lutte parce que celui qui lutte aujourd'hui, il est vivant. Celui qui a arrêté de lutter, eh ben, il est mort. Donc voilà, moi je vous le dis clairement, aujourd'hui, on a besoin d'un réveil des citoyens français pour défendre le patrimoine français, la sécurité sociale, la moitié de votre fiche de paye. Vous voyez, à gauche, c'est tout ce que vous prenez pour vous. Et ensuite, à droite, c'est les cotisations sociales qu'ils ont appelées des charges, parce qu'ils ont changé le mot cotisation, parce qu'il fallait m'en prouver aux Français que des charges, c'est dur, c'est lourd à porter. Donc, on a dit des charges patronales. Sachez qu'en réalité, à chaque fois que Air France me paye moi, eh ben, elle paye un malade, elle paye un retraité, elle paye un enfant qui va à l'école, elle paye un hôpital, etc., etc. Et ça, c'est un acquis social qu'on a et que nous, le peuple de France, on a arraché au patronat français qui avait fortement collaboré. Donc eux, ils ont dit cette année, ils récupèrent tout. Ils récupèrent tout, et ben nous on dit on lâche rien. Et s'il faut aller chercher d'autres chemises, on ira aller chercher d'autres chemises parce que nous on marche sans pantalon. Et ils Merci. Ont intérêt à faire attention à la veste qu'ils vont se manger en décembre. Parce que si c'est une chemise qui les inquiète, la veste qu'ils vont se manger en décembre, ça va être extraordinaire.
Merci, merci Mustapha. Applaudi par Youssef. Hein. Alors là, t'es vraiment soutenu par Youssef, par tout le monde. Hein. Mustapha, c'est toi qui t'occupes de la maintenance ? Parce que je voudrais bien qu'on réponde à Yves Calvi. Là. Il dit si c'est ces gars-là qui font la maintenance, moi je ne monte plus dans les avions. C'est toi qui fais la maintenance ? Tu t'occupes de ça ? Je voudrais rassurer mon collègue.
Moi, je peux le rassurer. Oui. Le premier secteur de rentabilité d'Air France, c'est l'assistance que l'on porte à toutes les autres compagnies aériennes mondiales qui, pour entretenir leurs avions, contrairement à ce qu'a fait Air France pendant un temps où on délocalise au Maroc ou en Chine, eh ben pendant que nous, on entretient nos avions à l'étranger, les compagnies étrangères, elles profitent de la disponibilité de nos agents pour entretenir leurs avions avec un niveau de qualité et garantie. C'est ça l'histoire, c'est qu'eux, quand ils nous confient leurs avions, ils dorment tranquilles. Donc si vous voulez savoir, vous plongez dans les comptes dans l'entreprise, vous verrez que le premier secteur de rentabilité, c'est l'industrie. L'industrie, ça veut dire la maintenance, l'entretien des avions. Donc, cher Yves Calvi, je t'engage à continuer à voyager sur Air France et à ainsi pouvoir voyager tranquillement et sereinement. N'hésite pas, le monde entier fait de même.
Guillaume Pollard.
Sur un plan général, j'applaudis des deux mains tout ce qui a été dit, je le fais bien, hein, sur la concurrence internationale, la dérégulation. Effectivement, c'est, je pense, le premier problème qu'il faudrait régler. Sinon, donc, au niveau de l'entreprise même, Air France va pas si mal que ça. Déjà, avant la grève de septembre de l'année dernière des pilotes, la direction prévoyait déjà des bénéfices. Bon, ils ont été cachés par les pertes de la grève. Et cette année, déjà, ils ont annoncé 100 millions de bénéfices. Mais notre PDG d'Air France a dit « Oula, 100 millions, je vous le dis tout de suite, ça ne sera pas assez. » Donc il a oublié de préciser à partir de quel montant ça allait être assez. Et les avions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sont pleins. L'outil de travail fonctionne à 200%. Le collectif de travail, les gens se donnent à fond tous les jours. Les avions partent, les passagers sont contents quand ils sortent des avions.
Le produit est bon, le produit Air France est bon et se vend. Et on va gagner de l'argent. Donc aujourd'hui, il y a eu des plans qui ont été entamés aux alentours de 2012. Il y a eu des PDV, des plans de départ volontaires, qui sont en train de se faire. Ce qu'on veut là aujourd'hui, c'est stop. On arrête tout, on laisse les effets de ces plans se faire, et puis on verra après. Mais malheureusement l'entreprise est pressée. Il faut se presser parce que la boîte est en bonne santé, globalement. Alors après, tout système est perfectible. Il faudrait que l'État vienne voir un petit peu, d'un peu plus près comment ça se passe au niveau du fonctionnement d'Air France. J'ai entendu Gérard Filoche proposer une enquête parlementaire sur les comptes d'Air France. Ben pourquoi pas ?
Alors Karim, pour finir, en quelques mots, brefs.
Voilà. Pour répondre vraiment à la question « qu'est-ce qu'on fait pour Air France ?», j'ai envie de dire le politique, il doit s'emparer de l'affaire. Le politique, il est régulateur. Donc si le politique n'enlève pas la taxe Chirac, si le politique continue ad vitam in aeternam d'augmenter les taxes aéroports de Paris, si le politique continue à accorder des créneaux à des compagnies du Moyen-Orient, on ne pourra pas être concurrentiel. Il faut que le politique, il intervienne. Maintenant, la productivité, je pense qu'on l'a fait. Et j'en parle tout autant librement, puisque mon syndicat Force Ouvrière avait signé l'accord transforme de M. de Juniac, qui nous avait promis que si on signait cet accord de 20% de productivité, un retour dans le top 3 mondial d'Air France en 2015. On a signé, mon syndicat l'a signé, a dit « Banco, on y va, on signe ». On a fait 23,8. Donc déjà, il a dépassé les 20% qu'on lui avait notifiés. Bon, ok, on est en 2015, il nous avait promis un retour à la croissance. On est en 2015, il nous dit « hop, rien ne va plus ». Va faire perform 2020. Si on va par là et qu'on signe, on signe cet accord 2020. C'est 2020, mais en fin de compte, c'est 2017. 2017, il va nous dire, hop, un nouveau plan avec un nouveau nom. Ils auront mis 3 jours à trouver ce nom-là, parce que c'est compliqué. Ils nous diront, bon, hop.
Iradique 2020. Voilà.
Donc, le problème, c'est que c'est une vie sans fin. C'est une vie sans fin, et on voit bien, on a perdu 10 000 salariés à Air France depuis le plan transforme. C'était les plans de départ volontaires. Voilà, des plans de départ volontaires. Ceux qui veulent quitter l'entreprise avec un chèque, je ne m'y oppose pas. Là, plan Perform 2020, ce n'est pas des plans de départ volontaires. Il y a des plans de départ volontaires. Mais dans les secteurs qui ne négocieront pas, ce n'est plus des plans de départ volontaires, c'est des départs contraints. Et pour finir, on va revenir juste un petit peu sur la dette d'Air France pour ramener un petit peu du financier au débat. On compare beaucoup avec British Airways, le groupe IAG. Le groupe IAG, c'est 5,4 milliards d'euros de dette. 5,4 milliards d'euros de dette. Le groupe Air France, c'était 6,5 en 2013. En 2015, donc en juin 2015, au premier semestre 2015, 4,5 milliards. C'est 1 milliard d'endettement en moins que notre concurrent, IAG. Et c'est surtout 2 milliards de dettes en moins qu'il y a 3 ans. On a remboursé 2 milliards de dettes pour une boîte qui va mal. Une boîte qui va mal, elle s'endette. Hein. Elle s'endette jusqu'à ne plus rembourser. Donc là, on en est à 4,5 milliards de dettes. Ils réduisent la dette, tant mieux. Voilà. Mais derrière nous, ce qu'on veut, c'est un plan de croissance. On veut un plan d'investissement sur l'entreprise. Monsieur de Juniac, il s'engage à un plan de croissance, à un plan d'investissement, à aller chercher de la croissance, parce qu'il y en a de la croissance dans le monde. Il y a des pays qui rayonnent, même si ça ralentit un petit peu la Chine, c'est des pays à 7% de croissance. Voilà, il y a de la croissance dans le monde. On veut qu'il ait une politique comme nos collègues de Lufthansa ou de British, où ils vont chercher de la croissance, où ils ouvrent des lignes. Ils ouvrent des lignes. Nous, on ferme des lignes.
Ce que je retiens de ce qui a été dit là, c'est l'exemple américain où le protectionnisme est pratiqué régulièrement et comment les États-Unis savent tout à fait sans problème, sans passer pour d'horribles fachos du tout, protéger leurs entreprises et donc par voie de conséquence protéger les emplois. Hein.
Le gouvernement des Pays-Bas, a abaissé les taxes de l'aéroport d'Amsterdam, Schiphol, de 7% pour protéger, pour aider KLM.
Merci à tous les cinq. Merci à Erika aussi. C'était la Baie Hebdo numéro 25 à Roissy avec le personnel d'Air France. Merci à Youssef Sifi, Mustapha Littim, Guillaume Pollard, Gérard Arnoux, Karim Taibi et Erika. Vous retrouvez toutes les informations sur le compte Twitter de là-bas si j'y suis, sur notre page Facebook, ainsi que sur le site là-bas.org, là-bas.org, où vous pouvez réécouter cette émission, la télécharger et la podcaster. L'émission a été réalisée par Franck Adhéraire, c'est notre pilote à nous, et préparée par Anaël Verzo, Jonathan Duong, Grégory Salomonovitch, ça c'est notre personnel au sol. Et c'est Grégory qui attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis, au 01 85 08 37 37. 01 85 08 37 37. Merci à tous, salut.
Des preneurs d'otages avaient pour projet de se dissimuler en sous-tabagage avant le décollage d'un vol long courrier et de le détourner pendant son voyage. Installés dans leur cachette, les terroristes s'apprêtent à faire péter en plein ciel une bombe démentielle. Ce qu'on ignore encore, c'est que les hôtesses en ont plein les fesses. Leur boulot leur sort par les yeux alors. La grève est votée et l'avion cloué sur l'aéroport. Pendant ce temps, dans leur cachette, les kamikazes s'inquiètent. Le temps passe, ils ont le trac et leur bombe fait tic-tac. Tous les passagers sont très en colère car leurs petites affaires sont toutes chamboulées. Et pour le reportage, la télévision se plaigne qu'ils sont tous pris en otage. Pendant ce temps, en bout de piste, on se dit chez les terroristes qu'on est vraiment peu de choses. Peu après, la bombe explose. Le lendemain matin, on lira dans le journal que le mouvement social, hasard ou destin, a sauvé de la mort 36 millionnaires de la classe affaire qui en tremblent encore.